Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Bouris.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. Le 13 mars dernier, l'Égypte a annoncé qu'elle voulait bâtir une nouvelle capitale administrative et financière. Objectif, offrir une meilleure qualité de vie aux 5 millions d'habitants qui y vivront à terme et désengorger l'énorme Le Caire. La première phase du projet devrait coûter quelque 43 milliards de dollars. L'Égypte n'est pas le premier pays à construire ainsi une capitale bis. La Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Brésil, la Birmanie, pour ne citer que ces pays-là, l'ont déjà fait. Mais il n'est pas indifférent que la nouvelle vienne d'Afrique. L'Afrique, c'est en effet la nouvelle frontière urbaine. Le continent est en pleine croissance économique et tous les analystes s'accordent à dire que la population urbaine africaine va exploser. Pourtant, ville en Afrique rime souvent avec urbanisation anarchique et pauvreté. Alors, la ville, la mégapole en Afrique comme ailleurs, est-elle le point de passage incontournable sur le chemin de la croissance? Les habitants des villes s'enrichissent-ils et contribuent-ils à l'émergence de leur pays? Voilà les questions que je vais poser aux trois invités que je vous présente maintenant. Bonjour Alexandra Chaffard.
Bonjour.
Vous êtes en duplex depuis les studios de France Bleu à Aix-en-Provence. Vous êtes économiste, maître de conférences à l'Université de Toulon et spécialiste d'économie urbaine. Vous avez beaucoup travaillé, beaucoup écrit, et vous continuez à le faire bien sûr, sur les villes chinoises et indiennes. Ce sont deux géants, plus d'un milliard d'habitants chacun, ces deux pays, et ils sont en pleine croissance économique. Est-ce que cette croissance se reflète de la même manière dans les villes chinoises et indiennes?
Non, nous avons une certaine différence. J'ai étudié ces hiérarchies urbaines chinoises et indiennes. En Chine, on a plutôt une croissance aléatoire, c'est-à-dire que une émergence des villes moyennes, alors qu'en Inde, vous avez plutôt une croissance dans les villes, les capitales des États.
Eh bien, nous continuerons cette conversation avec vous plus tard, avec nous également dans le studio de RFI, Armelle Choplin. Bonjour Armelle Choplin.
Bonjour.
Vous êtes géographe, vous enseignez à l'école d'urbanisme de Paris, toute nouvellement créée, et vous travaillez beaucoup sur les villes du monde arabe et sur celles d'Afrique de l'Ouest. Est-ce que les villes d'Afrique de l'Ouest que vous connaissez se développent énormément en ce moment ?
Oui, les villes d'Afrique de l'Ouest se développent énormément. Il y a une forte croissance urbaine, mais aussi une forte croissance économique, avec des grands projets urbains qui sont planifiés. Et puis aussi d'autres choses, d'autres projets beaucoup moins visibles. Peut-être on en reparlera, une émergence qui est moins visible, portée par des acteurs un peu qui se voient beaucoup moins. Et du coup, avec
lesquels en amont ?
Bah, des commerçants, des acteurs urbains, des promoteurs immobiliers qui circulent entre l'Afrique, l'Asie, et qui du coup vont aussi porter cette nouvelle et fabriquer aussi des nouveaux morceaux de ville.
Alors également dans ce studio, Jean-Fabien Steck, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes géographe aussi, vous enseignez à l'Université Paris-10-Nanterre. Vous travaillez surtout sur les villes ouest africaines, Abidjan, Lomé par exemple. En présentant à Alexandra Chaffard tout à l'heure, je précisais qu'elle était économiste. Vous et Armelle Choplin dans ce studio, vous êtes géographe. Qu'est-ce que cela implique comme différence de regard sur le monde urbain? Qu'est-ce que les géographes disent que les économistes ne disent pas et réciproquement?
Vaste question. L'objet principal de la géographie, c'est quand même de s'intéresser au territoire, à l'organisation de l'espace. Et finalement, une des entrées que l'on aborde autour de cette question de l'économie urbaine, qui est le fil conducteur de cette émission, c'est aussi de poser la question de l'organisation concrète de l'espace productif, et notamment de l'espace productif urbain.
Dans cette émission, nous entendrons également l'urbaniste Liliane Pierre-Louis nous parler de la ville de Ouagadougou au Burkina Faso. Nous irons à Quito en Équateur avec un reportage d'Éric Sanson et à Kigali au Rwanda avec un reportage de Stéphanie Aglietti. L'Afrique connaît une croissance économique ininterrompue. Selon les chiffres de la Banque mondiale, on est pour 2015 en moyenne à 5-6% de croissance et ça fait 10 ans que cela dure. Quel a été l'impact de cette croissance sur les villes africaines, Jean-Fabien Steck ?
bien assez importante. Mais ce qui est intéressant peut-être, puisqu'on parle de la croissance, c'est d'évoquer le rapport que la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement a publié l'été dernier, en août 2014. Un rapport dans lequel elle insiste sur le fait que la croissance africaine pose un certain nombre de problèmes. Deux ont été identifiés. L'un, c'est la faiblesse du commerce interafricain, ce qui ne nous concerne pas directement ici, mais l'autre nous concerne plus directement, car le rapport de la CNUSED attire l'attention sur l'importance de la consommation finale des ménages dans la croissance africaine. Et voit dans cet élément un déséquilibre. Et ça concerne directement l'économie urbaine.
Pourquoi ?
Eh bien parce que une part importante de l'économie urbaine est portée justement par une économie de la consommation des citadins et elle offre des opportunités d'emploi, notamment dans ce qu'on appelle le secteur informel, le commerce de rue, etc. etc. Et finalement, la question est de savoir si cette croissance contribue au développement ou finalement, non pas, elle n'empêcherait pas le développement, mais en tout cas, elle amènerait à devoir considérer le développement autrement.
Armel Choplin.
Oui, alors souvent, c'est vrai que l'Afrique est considérée comme un peu un continent qui tarde à émerger, mais finalement, quand on regarde les chiffres, il y a notamment ce qu'on appelle la base de la pyramide, un bottom of the pyramid, c'est-à-dire ce que représentent toutes les classes pauvres, et quand on met beaucoup de pauvres ensemble, ça représente beaucoup d'argent, et notamment, on parle aussi beaucoup de la classe moyenne émergente en Afrique, et on dit qu'en 2025, voilà, il y aura beaucoup de gens, notamment qui consomment, mais aussi des gens à loger, d'où aussi des nouveaux quartiers qui émergent un petit peu partout dans ces villes africaine en vue de loger cette future classe moyenne émergente. Donc c'est vraiment, vous l'avez dit dans l'introduction, l'Afrique peut être considérée comme la nouvelle frontière du capitalisme qui cherche toujours des espaces pour se développer. Et comme le continent est très divers, il y a effectivement énormément d'opportunités qui peuvent s'offrir à des investisseurs à la fois du continent, mais aussi, on le sait, des investisseurs du Golfe, des investisseurs asiatiques et évidemment toujours aussi européens et américains.
Ce phénomène qu'on observe en Afrique, Alexandra Chaffard, vous l'observez également en Asie ?
Tout à fait, notamment donc l'apparition de cette classe moyenne en Chine. Elle représente un tiers de la population urbaine. Elle est souvent caractérisée par une éducation plus élevée. Les gens migrent vers les villes pour améliorer leur bien-être. Et souvent, ce passage se fait par le secteur informel, comme l'a souligné Monsieur Schreck.
Steck, et, Fabien, voilà, Steck. Jean-Fabien Steck.
Le secteur informel est très important, il peut représenter jusqu'à 40% de l'économie urbaine.
En Chine comme en Inde.
Voilà, oui, oui. Donc il faut en tenir compte.
Mais est-ce que ce secteur informel, on a tous en tête des images de ces commerçants sur les rues, dans les rues des villes africaines ou asiatiques, est-ce que ce commerce informel se traduit par une extension des villes informel, Jean-Fabien Steck.
Il y a deux choses, c'est-à-dire qu'il y a ce qui relève de ce qu'on appelle le secteur informel, qui relève plutôt d'activités économiques avec des entrepreneurs ou des travailleurs, ça dépend de la façon dont on les qualifie, et qui ont des stratégies entrepreneuriales. Et puis, il y a l'extension du terme informel à l'ensemble d'un système urbain et de son mode de fonctionnement, en dehors, finalement, de toute planification. Évidemment, ça peut être intéressant d'analyser les liens qu'il peut y avoir entre l'informel perçu comme étant un secteur économique et la ville informelle, dans la mesure où, par exemple, l'extension de ce qu'on pourrait qualifier comme étant une ville informelle, c'est-à-dire en dehors du plan, est une ville qui est construite par des promoteurs, par des maçons, etc., qui appartiennent à ce que l'on peut appeler le secteur informel. Donc il y a bien une corrélation entre les deux.
Armel Choplin, vous connaissez bien Nouakchott en Mauritanie. Est-ce qu'on y constate ce phénomène d'informalité commerçante et d'informalité urbaine ?
Qui est d'ailleurs pas seulement le fait des bidonvilles hein, ou des quartiers précaires. On a l'impression que c'est seulement ces quartiers-là qui sont informels, mais finalement, même dans l'achat courant, on va dire, de terrain, il y a toute une procédure d'achat informel que les habitants très souvent connaissent. C'est-à-dire, c'est pas non plus anarchique, c'est-à-dire c'est informel, mais il y a des règles qui sont suivies, et c'est ça qui est toujours très intéressant de voir finalement une imbrication entre ce qui est formel, légal, reconnu par l'État, et puis finalement de façon informelle la façon dont tout le monde procède. Et donc ça peut être aussi le cas pour acheter des terrains. Même voir des populations très aisées qui vont l'acheter de façon informelle.
Alors je voudrais qu'on prenne l'exemple d'Abidjan, Jean-Fabien Steck. En Côte d'Ivoire, le pays a traversé une très grave crise politique et économique pendant les années 2000. La Côte d'Ivoire s'est appauvrie. Et puis Laurent Gbagbo a perdu les élections. Il est parti dans les conditions qu'on sait. Et Alassane Ouattara s'est installé à la présidence. La croissance économique a fait son retour. Comment se sont comportés Abidjan et les autres villes ivoiriennes pendant cette période sur le plan économique ? Est-ce qu'on a vu un appauvrissement, une extension ? Est-ce que on peut lire sur le terrain cette crise politique ?
Oui, bien sûr. Ce qui est intéressant, c'est que c'est de voir comment les villes s'en sortent depuis. Et là, il y a des différences énormes entre des villes qui ont un certain nombre d'atouts économiques et qui repartent assez vite. San Pedro, par exemple, qui est un autre port, enfin l'autre grand port de Côte d'Ivoire, qui lui a connu un développement économique assez important depuis la fin de la crise, bien que l'Ouest ivoirien ait été très fortement affecté par la crise. Par contre, d'autres villes ont plus de mal à s'en sortir. On peut notamment évoquer les villes du Nord, Bouaké et Korogo, par exemple, qui ont été marquées par la présence de la rébellion pendant longtemps, et où finalement, justement, reconquérir la confiance des investisseurs est quelque chose d'assez compliqué, d'assez long. C'est en cours, mais évidemment, il y a là des déséquilibres qui se sont creusés.
Mais concernant Abidjan, est-ce qu'il y a un Abidjan de Bagbo et un Abidjan de Ouattara? Est-ce que les périodes de crise économique se traduisent par des périodes de rétrécissement ou d'extension de ces capitales?
En l'occurrence, sur le plan démographique, Abidjan a plutôt cru pendant la crise, du fait des mouvements de population liés justement aux activités de crise. Si on prend, j'évoquais Bouaké tout à l'heure, qui est la deuxième ville de Côte d'Ivoire, un certain nombre de Bouakéens ont quitté leur ville et sont allés s'installer à Abidjan pendant la crise. Donc sur le plan démographique, Abidjan a plutôt cru. Ce qui ne veut pas dire nécessairement que c'est une conséquence sur la croissance économique de la ville, pour plusieurs raisons. Parce que, d'une part, les investisseurs ont quand même évité d'aller en Côte d'Ivoire pendant un certain nombre d'années. D'autre part, parce qu'on évoquait tout à l'heure l'informel, mais finalement, globalement, dans un contexte de paupérisation générale de la population, donc des consommateurs, eh bien, la part du gâteau est moins importante. Et de surcroît, en période de crise, de plus en plus de gens se tournent vers l'informel. Donc on a plus d'acteurs pour moins de consommateurs, pour le dire de façon un peu schématique.
Alors, en démarrant cette émission, je donnais l'exemple égyptien avec l'annonce de la construction d'une capitale bis qui doit regrouper à terme 5 millions d'habitants pour la modeste somme de 43 milliards de dollars. L'Égypte n'est pas le seul pays à vouloir désengorger sa capitale. Exemple avec ce reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs de Stéphanie Aglietti au Rwanda.
Perché sur deux collines avec ses 80 000 habitants, Mwanga est en train de vivre une petite révolution. Presque à chaque coin de rue, des bâtiments sortent de terre. Mwanga a été choisi par le gouvernement en raison de sa situation géographique, comme l'explique François Ouakazé, vice-maire en charge du développement économique.
Ça a été une ville commerciale depuis des années. Il y a la route qui va vers Bujumbura en passant par Ibuye, la route qui va vers Bukavu en passant par Rusizi et la route qui retourne vers Kigali.
Afin de rationaliser l'espace, la ville s'est dotée d'un plan d'urbanisme qui la découpe en quartiers dédiés. Et pour attirer la population tout en luttant contre l'habitat informel, les infrastructures ont été créées. François Ouakazé désigne un pan de colline surplombant le centre-ville.
Une personne qui va acheter une parcelle là-bas trouve de l'eau, de l'électricité, il y a la route, l'accès sur sa parcelle. Et la partie supérieure, il y a l'école secondaire et primaire. Ces infrastructures de base, généralement, ce sont les facteurs de déplacement de la population. Et s'ils les trouvent en place, ils vont rester là-bas.
La stratégie du gouvernement rwandais est en effet de rassembler au maximum les populations dans les villes afin de limiter les coûts d'accès aux services de base. Au détour d'une rue, Jean Bosco, 35 ans, originaire de la capitale, vit à Mwanga depuis 10 ans avec sa famille. Et il ne compte pas en partir.
Toutes les choses nécessaires dans la vie de la population, ici on peut trouver facilement. Et si on a autre chose qu'on pourrait avoir besoin sans temps qu'on trouve ici, c'est facile de se déplacer pour aller voir à Kigali. Ça fait moins d'une heure.
Reste maintenant pour Mwanga, comme pour les autres villes secondaires, à créer des emplois et à attirer les investisseurs. La municipalité dit miser sur les services, mais surtout l'industrie, notamment celle du bois et la transformation minière. Néanmoins, avertit Just Moorman, responsable de programme au sein de UN Habitat, pour que les villes secondaires soient viables, il ne faut pas négliger l'agriculture.
Si 20% des personnes obtiennent un emploi hors agriculture en ville, la productivité des autres fermiers doit augmenter pour que la ville soit autosuffisante d'un point de vue alimentaire. Donc, si une stratégie de développement de l'agriculture n'est pas mise en place, l'urbanisation ne fonctionnera pas.
Selon les prévisions, la population du Rwanda pourrait atteindre les 20 millions d'habitants à l'horizon 2040.
C'était un reportage de Stéphanie Aglietti à Kigali. À quoi est-ce qu'on assiste, Alexandra Chaffard, l'émergence de mégapoles ou de réseaux de villes secondaires, surtout en ce moment ?
La concentration urbaine, elle est liée au développement économique du pays et qu'au départ, la ville représente des avantages, notamment, on a une main-d'œuvre qualifiée, du capital, un marché. Et au fur et à mesure que le pays se développe, on va avoir des inconvénients d'agglomération qui vont apparaître, notamment donc la congestion, les problèmes de transport, la pollution, l'augmentation des prix fonciers. Et du coup, on va avoir suite à un phénomène de concentration urbaine, on va avoir de la diffusion urbaine et donc de l'émergence des villes moyennes ou des petites villes.
Jean-Fabien Steck, le géographe que vous êtes, constate la même chose ?
Oui, il y a un intérêt très fort pour les villes petites et moyennes qui prennent quand même de plus en plus d'importance. L'air n'est plus à la macrocéphalie. C'est-à-dire que si effectivement, dans un certain nombre de pays, de très grandes villes, déséquilibrent encore les réseaux urbains, les dynamiques vont plutôt dans le sens d'une croissance des villes petites et moyennes. Et d'ailleurs, les instances internationales ne s'y trompent pas puisque, que ce soit l'UN Habitat ou Cities Alliance, accordent de plus en plus d'attention à ces villes petites et moyennes.
Armel Choplin, ce reportage Rwandais vous inspire quelle réflexion ?
Bon, c'est toujours intéressant pour les urbanistes de voir une ville sortir de terre en se disant qu'on va éviter toutes les erreurs qu'on a pu faire au cours de ces dernières décennies. C'est la question des villes secondaires, mais surtout des villes satellites, en fait, qui se posent en Afrique, puisqu'il y a beaucoup de villes satellites qui sont créées, mais en Asie aussi. Et c'est vrai que c'est toute la difficulté, peut-être même plus que de créer une ville en tant que telle, que de la faire émerger pour qu'elle soit vivante et pas seulement une cité dortoir en marge de la capitale, puisque là, on est à 1 heure, si j'ai bien compris, de Kigali. Et voilà, donc on se retrouve avec des problèmes qu'on a pu rencontrer chez nous lorsqu'on a créé des villes nouvelles, c'est-à-dire comment ne pas faire des villes où viendraient seulement dormir les gens, mais créer aussi de l'emploi, attirer des investisseurs. Et ce qui se passe dans pas mal de villes africaines, c'est qu'on a beaucoup de villes satellites en périphérie qui sont jusqu'à présent des villes fantômes, comme on les appelle, les fameuses ghost cities qu'on peut retrouver à Luanda ou ailleurs et qui posent effectivement des problèmes. À Luanda, il y a pas mal de villes qu'on appelle des villes fantômes, notamment la ville de Kilamba, qui devait accueillir presque 200 000 habitants. Et aujourd'hui, c'est des logements qui sont vides, qui ont été créés sur financement chinois. Et ça pose problème de savoir qui va les habiter parce que à l'achat, ça coûte aux alentours de 100 000 euros l'appartement, ce qui est hors de portée de la plupart des habitants angolais.
Alors Quentin, un gouvernement comme le gouvernement égyptien annonce 43 milliards de dollars pour une ville de 5 millions d'habitants, Jean-Fabien Steck, vous en pensez quoi ? Vous pensez que c'est du rêve ou que ça va se traduire dans les faits ?
On verra.
Mais est-ce qu'il faut une économie en forte croissance, ce qui n'est que marginalement le cas de l'Égypte, pour construire un tel projet ? Est-ce qu'on peut politiquement décider qu'on va implanter une ville comme cela ?
C'est un geste politique en l'occurrence. Donc après, la question est de savoir si l'intendance suivra. À vrai dire, je ne connais pas bien l'Égypte. J'ai comme un doute.
Armel Choplin.
Après, ce qui est intéressant dans ces grands projets qu'on construit en périphérie, c'est que finalement, on annonce beaucoup de plans. Il y a beaucoup de cas, des villes africaines qui annoncent des nouvelles villes, Hope City à Accra, d'autres villes comme la Cité du Fleuve à Kinshasa. Et puis finalement, ça reste surtout de l'ordre de l'image rêvée, des master plans qu'on peut voir, des sites web magnifiques. Mais à sortir de terre, c'est un petit peu long et compliqué. Sauf que finalement, il y a souvent des accords assez opaques d'ailleurs, passé avec les promoteurs immobiliers, des capitaux extérieurs. Souvent, ça se passe même de gré à gré avec les dirigeants politiques. Et ce qui se passe, c'est que même si les projets ne sortent pas de terre, les bailleurs et les investisseurs ont des baux emphytéotiques, donc ils sont propriétaires pendant plusieurs années de ces terrains, et ils peuvent décider d'attendre ou d'investir ou pas. Et ça pose problème, parce que souvent, ce sont les espaces stratégiques qui finalement échappent aux populations locales. Donc ça, c'est presque de l'accaparement des terres, version grand projet urbain avec des financement, souvent qui viennent du Golfe.
Alexandra Chaffard, en Asie, vous constatez la même chose, en Inde par exemple ?
Alors en Inde, l'urbanisation n'est pas maîtrisé ou politiquement contrôlé, contrairement à en Chine où il y a eu une politique de contrôle de migration de la population. Et en Inde, on a plutôt les habitants qui se sont, au lieu d'aller dans les mégapoles comme Delhi ou Bombay ou Calcutta, sont allés dans les capitales de leurs États. Donc ça a fait une émergence de villes moyennes, voire grandes. Alors qu'en Chine, on a plutôt une concentration des villes et de l'urbanisation sur les côtes. Et dernièrement, quand les politiques ont été assouplies, on a des villes dans l'intérieur qui se sont développées.
Nous en parlerons dans la deuxième partie de cette émission, car la première partie de cet écho d'ici, écho d'ailleurs, consacrée au rôle des villes dans la croissance des pays émergents est terminée. Nous nous retrouvons dans quelques minutes après un flash d'actualité.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI. Écho d'ici, écho d'ailleurs, Jean-Pierre Bouris.
Bienvenue dans cette deuxième partie d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. Aujourd'hui, nous parlons du rôle des villes dans la croissance des pays émergents. Trois invités, d'abord en duplex des studios de France Bleu à Aix-en-Provence, l'économiste Alexandra Chaffard et ici dans les studios de RFI, les géographes Armel Choplin et Jean-Fabien Steck. Dans la première partie de cette émission, nous avons parlé du Caire, d'Abidjan, de Kigali. Nous avons vu qu'on assiste autant à l'émergence de mégapoles que de villes moyennes, secondaires ou satellites. Je voudrais qu'on parte maintenant à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, mais qui n'a pas toujours été la capitale de ce pays. C'est ce que nous explique l'urbaniste Liliane Pierre-Louis, qui partage son temps entre Paris et Ouaga depuis 30 ans et que j'ai rencontré il y a quelques jours.
C'est le choix politique au moment de l'indépendance qui a fait que Ouaga est devenue capitale. Les grands services administratifs, évidemment, toute la population des fonctionnaires et qui s'est considérablement accrue dans les années qui ont suivi l'indépendance. Donc, la croissance démographique a dépassé, en quelque sorte, la croissance économique, ce qui est une caractéristique de pays qu'on appelle maintenant en voie de développement
ou émergent.
Ouaga et Bobo sont dans une situation classique. Mais Ouaga était mieux placé sur le plan administratif, mieux relié au monde extérieur parce que c'est elle qui a l'aéroport principal. Et du coup, elle s'est considérablement développée. Elle était aussi plus attractive pour la population qui venait s'ajouter, rejoindre les familles qui y étaient déjà. Et c'est pour ça qu'elle a augmenté d'une façon exponentielle.
Mais vous dites, Ouaga, c'est là que se fait une bonne partie du PIB du pays. Mais pourtant, quand on regarde les activités économiques, industrielles du Burkina Faso, c'est essentiellement un pays producteur de coton, il y a un peu d'or. C'est un pays agricole, un pays de ressources de base, un pays de matières premières. Pourquoi est-ce que la richesse est dans la ville et pas dans les champs ?
La richesse est dans les deux, on va dire. Et effectivement, en termes de production, le coton est une réelle production avec la Sofitex, mais tous les échanges, toutes les écritures, tout ce qui se passe du point de vue économique pour les échanges avec l'extérieur se passe quand même administrativement plus dans la ville que sur les lieux de production. Même si Dédougou, par exemple, on a un grand centre de la Sofitex. Pour ce qui est de l'exploitation minière, les grandes sociétés privées qui sont présentes au Burkina, elles ont aussi leurs sièges principaux et leur administration à Ouagadougou, même si leur exploitation est sur les sites miniers. Donc, de toute façon, il se passe toujours quelque chose par la capitale, par la ville principale, qui là se trouve être aussi la capitale politique.
C'était Liliane Pierre-Louis, donc. Armel Choplin, c'est toujours la même chose. Les capitales drainent la richesse, les grandes villes drainent la richesse plutôt que les autres régions du pays?
Oui, c'est un petit peu le point de passage obligé. C'est là où on a les grands sièges sociaux, mais aussi certainement les plus grandes opportunités. C'est vrai que, en tout cas pour ce qui est de l'Afrique, comme on est dans des pays plutôt où il n'y a pas d'énormes productions industrielles, et les capitales sont finalement des espaces plus de circulation d'argent que de production d'argent tant que tel. Et c'est là où finalement c'est l'argent de la rente qui a pu être capté va être redistribué, réinvesti. Et on sait très bien que l'un des secteurs qui est, si vous voulez, la façon de thésauriser son argent, surtout dans des systèmes où les banques fonctionnent de façon plus ou moins aléatoire dans certains pays, eh bien les gens vont avoir tendance à thésauriser dans l'urbain, dans le foncier, dans l'immobilier. immobilier. Et c'est là où on va essayer d'investir. Donc c'est vrai que c'est dans la capitale, même si vous êtes originaire de l'intérieur, que les gens vont essayer finalement de faire fructifier l'argent. Et là où ça, c'est le plus facile aujourd'hui de gagner de l'argent en Afrique, c'est l'un des secteurs, c'est effectivement le foncier et l'immobilier.
Jean-Fabien Steck.
Oui, ce qui est important de remarquer aussi, c'est que certes, elle joue un rôle important en tant que capitale, mais surtout en tant que point de connexion avec la mondialisation. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il s'agit de grandes villes qui sont des ports, qui ont des aéroports. Dans certains cas, d'ailleurs, ce ne sont pas toujours des capitales. Hein. Pensons à Douala par rapport à Yaoundé, pensons à Lagos ou à Port Harcourt par rapport à Abuja ou à Ibadan au Nigeria. Ou même au rôle important que peut jouer des villes comme Dar es Salaam en Tanzanie ou Mombasa dans l'économie kenyane. Donc cette question de métropole, de ville qui sert d'articulation entre un territoire productif local et un marché mondialisé est un autre élément important d'analyse au-delà de la dimension capitale. Alors bien sûr, ça peut être un facteur qui a conduit à choisir ces villes en tant que capitale, mais on voit bien qu'il y a d'autres... Et le fait qu'elles soient capitales devient aussi un élément de capitalisation de la richesse.
Mais est-ce que la mondialisation, la multiplication des échanges pousse au renforcement de l'importance de ces capitales, de ces grandes villes?
Oui, et c'est d'ailleurs quelque chose qui est promu par un certain nombre de bailleurs internationaux. Si on regarde le rapport de la Banque mondiale de 2009 qui s'appelle « Repenser la géographie économique », le rapport se décline autour de trois entrées fondamentales, dont deux nous intéressent ici, qui sont densité et distance. Densité, c'est bien l'idée qu'il y a une densité du capital et une possibilité d'agglomération du capital qui peut avoir un effet d'entraînement sur l'économie de l'ensemble d'un territoire. Et distance, c'est la réduction de la distance, c'est-à-dire la qualité de la connexion au réseau. Et finalement, ce sont les métropoles qui joue ces deux tableaux.
Alexandra Chaffard, vous y retrouvez dans ce que Jean-Fabien Steck vient d'expliquer? On pourrait appliquer les mêmes raisonnements à l'Asie, à la Chine ou à l'Inde?
Oui, tout à fait. Et je voulais rajouter aussi que ces centres urbains captent beaucoup les capitaux d'aménagement, les politiques d'aménagement, alors que les petites villes et les moyennes villes en auraient besoin aussi.
Liliane Pierre-Louis nous disait tout à l'heure que la croissance démographique, Armel Jeplin, dépassait à Ouaga la croissance économique. Est-ce qu'il y a un déséquilibre qui peut se créer dans ces centres urbains de pays en croissance?
Oui, mais c'est vrai que, comme on le disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'une croissance démographique aussi crée de la demande, des besoins, et que finalement c'est assez lié. Mais c'est vrai que bon, le principal problème, c'est qu'il n'y a pas de production à forte valeur ajoutée, ce qui pose effectivement des problèmes. Et du coup, on peut avoir des villes aussi qui deviennent surtout des espaces de consommation, et c'est là un peu le problème. Et alors, vous disiez, est-ce que là, il y a seulement les capitales qui émergent? Et bien, ce qu'on a pu observer avec des collègues, c'est qu'il y a aussi des espaces tout un peu inattendu qui émerge dans des zones où on s'y attendait pas, pas forcément urbaines, mais qui vont créer de l'urbain, notamment des places marchandes. Alors je pense aux travaux que j'ai pu faire avec Olivier Pliès qui est au CNRS à Toulouse, ce qu'on appelle les espaces discrets de la mondialisation, c'est-à-dire qu'au milieu de l'Algérie, là où on ne s'y attend pas, à peu près à une heure de Sétif, un peu moins, il y a un espace qu'on appelle le Souk Dubaï, dans la petite ville de El Olma. Et en fait, c'est un espèce de carrefour commercial qui s'est créé ces dernières années parce que des commerçants algériens sont allés directement s'approvisionner, on va dire, en marché de gros, vous savez, tout ce qui est biens de consommation courante, produits venant de Chine, des bassines en plastique, des tongs, etc. Et qu'ils soient allés s'approvisionner directement en Chine. Et que parce que cet espace est au cœur presque au milieu des carrefours de l'Algérie, eh bien, on a une espèce de place marchande qui a émergé comme ça, un peu inattendue. Et aujourd'hui, vous avez des Algériens de tout le pays qui viennent s'approvisionner en gros, en détail, pour des produits venant d'Asie, alors qu'avant, ça passait par Dubaï et que finalement, les Algériens vont directement en Chine, à Yiwu, la capitale, hein, là où on produit tous les objets qu'on peut retrouver chez nous et dans le monde, enfin, dans les pays du Sud. Et que finalement, la mondialisation, ça passe à la fois par les grandes villes, mais ça crée aussi des nouveaux lieux et notamment des places marchandes pour la consommation.
Cela veut dire que les politiques ne sont pas maîtres absolus de l'urbanisation, Jean-Fabien Steck?
Non. Au contraire, on constate un certain nombre de dynamiques qu'on pourrait qualifier d'endogènes, qui sont celles justement des acteurs que Carmel vient de décrire et que l'on rencontre ailleurs. Et ça renvoie à ce qu'on disait tout à l'heure sur le rapport de l'informel au plan et au planifié. C'est-à-dire qu'effectivement, il existe à côté de la planification urbaine et notamment de la planification de l'espace productif urbain, tout un processus d'appropriation de cet espace productif urbain, indépendamment du plan, parfois contre le plan, et qui participe aussi de l'économie urbaine, et qui parfois d'ailleurs représente une part dominante de l'économie urbaine.
Beaucoup de pays africains se disent sur le chemin de l'émergence, Jean-Fabien Steck. Les gouvernements mettent en place des programmes à long ou à moyen terme. On peut citer le plan Sénégal émergent ou le plan Kenya 2030. Est-ce que ces programmes incluent forcément des schémas d'expansion urbaine ?
Ceux que je connais, oui.
Par exemple,
une grande importance aux villes. Bah, par exemple, on va prendre un autre exemple, c'est celui du Kenya, où il est intéressant de voir que au projet portant sur l'émergence nationale kényane répond un projet d'aménagement urbain de Nairobi, par exemple.
Et c'est un projet qui est financé, extrêmement bien structuré.
Oui, qui est financé. Il y avait un projet de métropole, de Nairobi métropole, alors qui aujourd'hui est un petit peu remis en cause parce qu'il y a eu un nouveau processus de décentralisation qui a un petit peu redécoupé les territoires locaux. Néanmoins, le nouveau comté de Nairobi est actuellement en train de réaliser un plan d'urbanisme dont le caractère métropolitain, c'est-à-dire inséré dans des réseaux économiques mondialisés, est extrêmement important.
Armel Choplin.
Oui, alors c'est vrai que l'émergence pousse aussi les villes et les pays à être concurrents les uns entre les autres. Donc ça fait une énorme concurrence entre les villes qui essayent de capter la rente, de faire des grands projets pour être visibles à l'international. Et du coup, ça occulte aussi les retombées et les implications sociales de cette émergence. Alors pour qui, on a envie de dire, des villes pour quelle population, sachant que souvent les projets ne sont pas accessibles au plus grand nombre. Il faut penser aussi les coûts sociaux. Il y a souvent des évictions de gens, des déplacements pour pouvoir faire ces grands plans d'urbanisme, pour pouvoir bien rationaliser, régulariser, faire rentrer tout le monde dans le marché, parce que c'est un peu ça l'idée. Ça pose la question de à quel coût et pour qui. Et il ne faudrait pas oublier que cette concurrence peut être lourde de conséquences sur des populations qui sont déjà, on le sait, fortement fragiles.
Parce que ce qui se développe dans ces villes, ce sont des quartiers marginaux, pauvres.
En fait, souvent, dans les plans d'urbanisme, l'idée, c'est aussi de faire que le centre-ville devienne la vitrine. Et ça, toutes les villes s'accordent à essayer de nettoyer le centre-ville, ce qui suppose de raser des espaces ou en tout cas des formes urbaines qui seraient jugées trop vétustes. L'exemple de Nouakchott est extraordinaire. La capitale a 50 ans et on a déjà détruit le centre-ville parce qu'on le trouvait pas assez moderne. Donc, on a cassé pour faire des tours. Pour l'instant, les tours, c'est comme dans beaucoup de villes, on attend qu'elles sortent de terre. Et finalement, on déplace des gens dans pas mal d'endroits. Et ça pose et ça fragilise des populations qui sont éloignées, se retrouvent dans des quartiers précaires en périphérie.
Alors c'est Écho d'ici, Écho d'ailleurs sur RFI, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. Nous parlons urbanisation et croissance économique avec trois invités. En duplex depuis France Bleu à Aix-en-Provence, l'économiste Alexandra Chaffard. Et puis ici dans les studios de RFI à mes côtés, les géographes Armel Choplin et Jean-Fabien Steck. On va quitter quelques instants les horizons africains pour aller en Amérique latine, un continent très urbanisé où il y a des villes géantes, Mexico, Sao Paulo par exemple. Mais en l'occurrence, on va parler encore une fois de villes nouvelles. Et on va parler de Ville Nouvelle en Équateur, un pays de 13 millions d'habitants, producteur de pétrole, de bananes, c'est l'un des grands mondiaux de la banane, de café et de cacao. La capitale économique, Guayaquil, est sur la côte pacifique et la capitale administrative et politique, Quito, est perchée dans les Andes. L'un des projets phares de l'actuel président, Rafael Correa, c'est de construire une ville nouvelle à 2 heures de Quito, une ville entière dédiée au savoir, à la science et à la technologie. Elle a d'ailleurs déjà un nom, Yachay, qui en quechua, la langue des Indiens des Andes, veut dire connaître. Direction Yachay, donc, avec un reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs, signé Eric Sanson.
C'est dans les bâtiments reconstruits d'une ancienne hacienda de l'époque coloniale que commence à s'élever la première ville nouvelle construite en Amérique latine depuis Brasilia. La construction de Yachay a commencé il y a 2 ans, au beau milieu d'un terrain isolé dans les Andes, près du petit village d'Urcuqui. Des débuts encore modestes, mais avec beaucoup d'ambition, selon Hector Rodriguez, responsable de l'entreprise publique Yachay.
Yachay est né du besoin de créer un pays qui mise sur le savoir et la connaissance. C'est un projet national qui unit le système universitaire, l'académie internationale, l'industrie équatorienne et le gouvernement dans un rôle de facilitateur.
La population de Yachay est encore modeste. En mars dernier, 189 étudiants se sont installés dans les locaux d'une université récemment créée, mais qui, elle aussi, a de grandes ambitions, selon Juan Carlos Moreno, directeur de recherche à Yachay.
L'université de Yachay a l'ambition de terminer dans 10 ans dans la liste des 100 meilleures universités du monde en respectant dès le départ les plus hauts standards académiques internationaux.
Les premiers immeubles sont en train de sortir du sol. Il en faudra un bon nombre pour loger les quelques 10 à 15 000 étudiants et professeurs attendus d'ici 5 ans. S'ils sont les premiers habitants, ils ne seront pas les derniers, selon Ramiro Moncayo, gérant de développement industriel.
Yachai n'est pas qu'une université, c'est une ville nouvelle dédiée à la science, à la technologie, à l'innovation. Ici, le secteur productif, le secteur privé, peut développer de nouvelles entreprises. C'est la première ville planifiée de l'Équateur.
Yachai fera la part belle aux piétons, aux énergies vertes et à la protection de l'environnement. Le gouvernement la voit comme la future Silicon Valley ou Sophia Antipolis de l'Équateur. Tous les instituts de recherche publique vont bientôt s'y installer en attendant une zone industrielle à l'image de la zone d'Incheon en Corée du Sud. Ramiro Moncayo.
Nous avons signé des accords avec une cinquantaine d'entreprises qui souhaitent s'installer à Yachai, des laboratoires, des centres de recherche et plus tard une zone de production de technologie.
L'idée à terme est de produire de la richesse pour l'ensemble du pays en développant par exemple des vaccins génériques, des matériaux de construction antisismiques, de la nanotechnologie. Hector Rodriguez, gérant du projet.
La ville nouvelle de Yachai est un écosystème qui générera une ambiance positive pour les entrepreneurs, pour la création d'entreprises, avec de la main-d'œuvre qualifiée, des emplois, de bons salaires, sans oublier les aides fiscales et douanières nécessaires à l'épanouissement de cet écosystème.
Vers 2040, la ville du savoir de Yachai devrait compter sur quelques 40 000 habitants. Avec le programme de création et d'amélioration des universités du pays, c'est le projet qui doit installer l'Équateur dans le 21e siècle. Le gouvernement y consacrera $1 milliard.
C'était un reportage d'Éric Sanson à Yachai, près de Quito. Donc, je vous voyais sourire à Mal Choplin en écoutant ce reportage.
C'est pas très nouveau, c'est exactement le phénomène des technopoles qu'on a connu en Europe et dérivé hein, aussi de la Silicon Valley. On a vu des réussites dans les pays du Sud, Bangalore en Inde, effectivement une énorme réussite. Actuellement, on sait qu'en Arabie Saoudite, il y a la ville de Masdar qui doit sortir de terre, hein, qui s'appelle La Source, donc avec la première ville entièrement consacrée au savoir et avec zéro de pollution de taux de carbone. Et donc, c'est vrai que les pays émergents doivent, enfin les pays du Sud en tout cas, pour émerger, il faut aussi former les gens et c'est vrai que l'une des entrées, c'est de faire ces technopoles ou ces smart cities, comme on les appelle, pour essayer de mieux former ces habitants et ainsi pouvoir espérer produire et se positionner sur des marchés compétitifs.
Bangalore, un énorme succès, Alexandra Chaffard.
Tout à fait. C'est vrai que les villes cherchent à attirer des investissements, notamment les investissements étrangers, et elles favorisent donc l'établissement d'entreprises en créant souvent des zones franches aux alentours des grandes villes, des aéroports. Et c'est vrai que ce reportage nous montre que les villes sont aussi un lieu de formation du capital humain, c'est-à-dire du niveau de connaissance d'une société. Donc à la fois, c'est un lieu de concentration du capital des investissements, mais aussi du capital humain.
Jean-Fabien Steck, en Afrique de l'Ouest, que vous connaissez bien, dans les villes comme Lagos, Abidjan, on constate cette même évolution de renforcement du capital humain.
Oui, et cette question universitaire est tout à fait passionnante dans les villes actuellement, parce que ce qui va positionner une ville dans un réseau urbain, et donc on parlait tout à l'heure de la compétition entre les villes, c'est sa capacité à offrir des services rares. Et évidemment, l'économie du savoir participe de ces services rares. Et on assiste actuellement en Afrique de l'Ouest à une grosse réflexion sur la cartographie universitaire en général, et en particulier où l'on voit les universités sortir des plus grandes villes pour aller s'installer dans les villes secondaires, avec des stratégies qui sont sont en fait pensées à deux échelles, c'est-à-dire d'abord à une échelle nationale, comment avoir une cartographie nationale universitaire. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir aussi comment ces projets, qui sont souvent conçus à l'échelle nationale, sont récupérés après par les collectivités locales.
Par exemple
On peut donner l'exemple de la ville de Boaké en Côte d'Ivoire, encore dont je parlais tout à l'heure, qui accueille une université qui a 20 000 étudiants. D'autres pôles universitaires ont ouvert en Côte d'Ivoire, on peut penser à Korogo. Un petit peu plus avant, dans les années 80, toutes les grandes écoles d'ingénieurs ont été localisées à Yamoussoukro. Bref, on voit bien qu'il y a quelque chose qui relève d'une politique nationale d'équipement universitaire. Et cette politique nationale d'équipement universitaire a des conséquences sur la façon dont ces villes d'accueil deviennent des villes universitaires, donc des villes portées par cette économie du savoir.
Beaucoup de ces pays sont des pays, comme l'Équateur dont on parlait tout à l'heure, des pays producteurs essentiellement de matières premières. Alors s'ils vont passer du statut de producteur exportateur de matières premières à exportateur de matières producteurs de matières grises grâce à l'émergence de ces villes, Armel Choplin?
Alors, je ne sais pas si là, ça va se faire de cette façon. En tout cas, on sait que des pays qui étaient justement considérés comme en développement il y a une vingtaine d'années ou une trentaine d'années, comme la Corée du Sud aujourd'hui, effectivement, sont producteurs et exportateurs de matières grises, si on veut par là, et que on a des étudiants qui viennent chez nous se former chez nous, mais on envoie aussi nous commence à envoyer des étudiants se former en Corée du Sud. C'est un des exemples les plus intéressants qui est passé d'un pays producteur, voilà, de bien industriel, de second, enfin pas forcément très technologique, et aujourd'hui voilà, on a aussi, et l'émergence c'est aussi ça, c'est aussi la circulation des savoir-faire, de la technologie qui se déplace. On sait que en Inde il y a énormément de sociétés qui aujourd'hui construisent de ce qu'on appelle de la low technology, donc de la technologie en fait bas de gamme, mais qui concurrencent les entreprises européennes, et ils produisent localement souvent des choses relativement de bonne qualité. Donc il y a aussi une formation localement qui se met en place.
Est-ce qu'on a des chiffres précis sur la richesse supplémentaire qu'une ville dont la population augmente apporte au pays dans lequel elle est installée? Alexandra Chaffard, est-ce qu'on sait ça?
Les données sur les villes sont très difficiles à avoir, notamment les données économiques. Alors souvent, on utilise la population d'une ville comme un critère économique.
Mais pourquoi est-ce que ces données sont difficiles à obtenir?
Alors, c'est souvent des données nationales, hein, le PIB par habitant, là, au niveau national, mais on l'a pas du tout au niveau de chaque ville. On a des données, mais seulement quand on fait des recensements, c'est-à-dire tous les 10 ans. Donc, c'est très difficile après de faire des études sur les villes, notamment parce qu'on n'arrive pas à avoir des données fiables.
Pour les pays dont on parle en ce moment, qu'est-ce qui est le plus rentable économiquement? Qu'est-ce qui génère le plus de richesse? C'est une grande ville, une mégapole, une capitale géante, ou une succession de villes secondaires, Jean-Fabien Steck?
Bien, si on s'en tient aux données, avec les réserves que l'on vient d'évoquer, dont on dispose actuellement, il est clair dans l'état actuel de nos connaissances que ce sont plutôt les grosses villes qui portent l'économie visible urbaine. Après, la question qui va se poser, c'est la question de l'articulation entre ces statistiques macro et le lien entre l'économie et la vie des citadins et la vie des habitants. La clé centrale, à mon sens, c'est la question de l'emploi, qui permet de poser la question du lien entre justement ces activités économiques, cette économie urbaine et les sociétés urbaines. Et là, ce qui est intéressant, c'est que les données dont on dispose sont des données qui vont plutôt porter sur le statut de l'emploi, et les questions qui vont porter sur le statut de l'emploi vont porter finalement sur des catégories économiques, dont l'informel dont on parlait tout à l'heure. Juste pour donner un chiffre, puisque vous voulez des chiffres.
Non, pas forcément.
Mais il y a un chiffre qui est quand même assez intéressant, c'est que le Bureau international du travail avait estimé sur la décennie passé que 9 nouveaux emplois sur 10 dans les villes africaines étaient du ressort de l'informel. Ce qui donne une petite idée d'une dynamique économique qui est justement sous les radars de la statistique officielle dont on parlait tout à l'heure.
Mais l'économie urbaine informelle, c'est une économie qui ne paye pas d'impôts, qui ne paye pas de charges sociales. Donc comment est-ce qu'une ville peut se développer dans ces pays émergents si elle n'arrive pas à lever les taxes, à structurer cette économie?
Alors, en fait, c'est plus compliqué que ça, parce qu'en fait, les commerçants de rue payent des taxes. Ils payent des taxes de marché, généralement, c'est-à-dire que les collecteurs de tickets de marché vont dans les rues et prélèvent. Donc, il y a une petite taxation de l'informel. Et plus que cela, parfois, l'informel offre un certain nombre de services urbains. Par exemple, il n'y aurait pas de mobilité urbaine possible dans un certain nombre de villes s'il n'y avait pas des taxis informels. Donc, on voit bien que l'idée d'une opposition entre formel et informel fonctionne pas toujours, parce que la ville formelle fonctionne grâce à l'informel. Un exemple tout simple, les fonctionnaires du quartier du Plateau à Abidjan ne pourraient pas aller travailler s'il n'y avait pas des taxis informels qui les amenaient au travail.
Mais quand une grande ville se développe, qu'il y a de la richesse qui s'y crée, l'État ou la municipalité doit installer des infrastructures, des égouts, l'électricité, l'eau courante. Ça n'est pas toujours fait. Est-ce que cela a un coût qui obère la rentabilité générale de cette unité urbaine? Armel Choplin.
Oui, alors c'est vrai que souvent, là, pendant ces dernières décennies, les politiques, en tout cas les autorités publiques, ont plutôt laissé faire la ville, la laissé avancer et essayé de régulariser après coup, ce qui évidemment pose des problèmes. Là, la plupart des villes africaines sont engagées dans des révisions des schémas directeurs d'aménagement urbain. Il y a des nouveaux des villes qui développent leur stratégie urbaine. Et ça reste quand même très compliqué de précéder la ville dans des croissances urbaines qui sont vraiment très élevées. Mais ceci étant, la régularisation après coup se fait plutôt, ça dépend des villes, mais de façon assez correcte pour certaines. C'est-à-dire que les services arrivent après, longtemps après. Alors c'est vrai que c'est dommageable pour les populations, mais finalement, il y a une espèce de régularisation.
C'est-à-dire que les populations arrivent des campagnes s'installent et des années après, ils ont l'électricité ou l'eau.
Voilà, ce qui oblige à certaines pratiques informelles, comme le disait Jean-Fabien Steck, c'est-à-dire à développer, par exemple, du braconnage pour avoir accès à l'électricité, à l'eau, des petits services privés pour justement se faire approvisionner qui vont en fait pallier les manques des services urbains, comme on a pu le voir aussi pour le transport.
Ben, à l'inverse, dans ces temps de mondialisation, d'uniformisation de la consommation, les citadins des pays émergents sont évidemment, dans la mesure où ils accèdent au statut de classe moyenne, des cibles de choix pour les grandes multinationales. Est-ce que par là même, cela ne freine pas la montée en puissance de ces villes et puis des entreprises, des industries locales potentiellement, Jean-Fabien Steck? Est-ce que ce sont pas des proies pour les multinationales?
Oui, et c'est justement ce qui était souligné dans le rapport de la CNUSET que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire de dire que le poids de la consommation dans la croissance du PIB du continent africain est en fait un indicateur d'une forme de déséquilibre liée à cette intégration au marché mondial.
Alors, M. Choplin, ces grandes villes, c'est une victoire pour le marché mondial? Plus que pour ces pays émergents?
Ça dépend de quel point de vue on se place, mais pour des grands investisseurs, par exemple les grands groupes du Golfe, oui, ça peut être des placements très intéressants, parce que, comme l'avait dit une fois un dirigeant de Qatari, hein, il m'avait dit, notamment les pays du Sahel sont la marche vers l'Afrique subsaharienne, et du coup, en fait, c'est des frontières, on s'y installe, on voit si ça marche, si ça marche pas, et puis après, du coup, on peut élargir le marché. On sait que le marché de demain, souvent on dit l'Afrique, voilà, c'est que ce sera pour 2025, 2030, et il y a beaucoup de sociétés privées qui pensent évidemment à ce marché, qui se positionnent dès aujourd'hui, même si ça n'a pas de retombées tout de suite immédiates, mais qui ont déjà prévu en fait l'importance de se positionner dans ces localités.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur la radio mondiale.
Eh bien, c'est la fin de cet écho d'ici, écho d'ailleurs, consacré aux villes dans les pays émergents. Merci à Pascal Morel de France Bleu Provence de l'avoir rendu possible, ainsi qu'à Vincent Porra d'Allongeville, qui était en régie ici à Paris. Merci à vous trois, Alexandra Chaffard, Amel Choplin et Jean-Fabien Steck, d'y avoir participé. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel écho d'ici, écho d'ailleurs.
Écho d'ici, écho d'ailleurs sur RFI.